RFI, 8h à Paris, 7h à Londres et 6h à Abidjan.
RFI Matin.
L'heure du journal. Bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Volodymyr Zelensky ouvre la porte à des négociations avec Moscou.
Le président ukrainien est attendu à Londres pour évoquer un éventuel cessez-le-feu avec ses partenaires américains et européens. Une trêve qu'il conditionne à un arrêt préalable des combats. Le monde se prépare à dire au revoir au pape François. Les funérailles du souverain pontife se dérouleront samedi, place Saint-Pierre, à Jérusalem. Une grande messe est organisée dans 2 heures. Nous serons devant l'église du Saint-Sépulcre dans ce journal. Ils veulent alerter sur ce qu'ils nomment un génocide à Gaza. Les membres du mouvement Hungry for Justice for Palestine, dont une vingtaine de membres étaient reçus hier au Sénat français. Vous entendrez un de ces grévistes de la faim, un médecin encore choqué des images vues dans l'enclave palestinienne. Et puis le phénomène de l'animation chinoise débarque en France. Neja 2, suite du premier opus à l'affiche des cinémas français ce mercredi. Un succès mondial qui est déjà le film le plus rentable de tous les temps.
L'avenir de l'Ukraine se discute à Londres ce mercredi.
Une délégation ukrainienne se réunit dans la capitale britannique avec des représentants européens et américains. Au menu des discussions, une trêve partielle ou complète avec la Russie. Moscou, avec qui Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à négocier. Mais pour ouvrir ses premiers pourparlers depuis 2022, le président ukrainien pose ses conditions. L'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. La veille, Vladimir Poutine, le président russe, avait également émis des commentaires en ce sens. Juliette Chénion.
Nous sommes prêts pour cette étape. Nous sommes également prêts à confirmer qu'après le cessez-le-feu, nous serons disposés à nous asseoir à la table des négociations, quelle que soit la forme que cela prendra, afin d'éviter toute impasse du type « l'Ukraine peut faire ceci, ne peut pas faire cela, veut ceci », quelle que soit la forme que cela prendra. Car à ce moment-là, nous estimons avoir obtenu au moins un résultat.
Le président Zelensky, propos recueilli par Juliette Chénion. Vladimir Poutine, qui serait prêt à geler totalement la ligne de front le temps d'ouvrir des pourparlers. C'est en tout cas ce qu'affirme le Financial Times, selon qui le président russe aurait fait une proposition en ce sens aux Américains. Mais là encore, la main tendue s'accompagne de conditions. Une promesse de non-adhésion de Kiev à l'OTAN et une reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée. On va tout de suite retrouver notre correspondant à Kiev, Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Pierre.
Cette question des territoires illégalement occupés par la Russie est une ligne rouge pour Kiev qui compte bien le rappeler à Londres.
Oui, tout à fait. L'enjeu de cette rencontre entre l'Ukraine, ses alliés européens et les États-Unis est de voir quelles conditions sont acceptables pour un cessez-le-feu côté ukrainien. Et cette question des territoires ukrainiens sous contrôle russe, elle est centrale. La guerre a commencé en 2014 avec l'occupation puis l'annexion illégale de la péninsule de Crimée. Cela viole l'intégrité territoriale de l'Ukraine telle que reconnue par le droit international et ça a poussé aussi des dizaines de milliers d'Ukrainiens à quitter la Crimée, alors qu'au moins 1,5 million de Russes sont venus s'y installer depuis 2014. Une politique de colonisation, donc, qui s'applique aussi dans les autres territoires occupés où les populations locales ukrainiennes, des millions de personnes sont privées de leurs droits basiques, accès à la santé, à l'école, à l'administration, si elles refusent de se plier aux autorités d'occupation et de prendre le passeport et la nationalité russe. C'est pour cela, notamment au-delà des considérations territoriales, que pour l'Ukraine, il est tout simplement impensable de reconnaître l'occupation russe sur ces territoires comme légitime. Autre point important discuté aujourd'hui, les garanties de sécurité en cas d'un accord sur un cessez-le-feu. Une adhésion ukrainienne à l'OTAN se heurterait au veto américain et la seule garantie de sécurité dont bénéficierait Kiev serait une coalition de maintien de la paix mise en place par quelques 30 pays alliés sous l'impulsion franco-britannique.
Emmanuel Chaz, vous étiez avec nous en direct depuis Kiev. Merci. À noter qu'une frappe russe contre la ville de Dnipropetrovsk en Ukraine a fait 9 morts ce matin. Volodymyr Zelensky aura, lui, l'occasion de discuter de la paix directement avec le président américain. Ce sera samedi au Vatican. Le président ukrainien et Donald Trump seront tous deux présents aux funérailles du pape François. Toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine ne fera pas le déplacement. Et avant cette cérémonie qui se déroulera place Saint-Pierre, les fidèles catholiques auront l'occasion de rendre un dernier hommage au souverain pontife décédé lundi. Le corps du pape François sera exposé à partir de ce matin au sein de la basilique Saint-Pierre et ce jusqu'à vendredi soir. Le décès du religieux continue de provoquer l'émotion à l'international. À Jérusalem, ville sainte pour les chrétiens, une grande messe doit se tenir ce matin même au Saint-Sépulcre. Elle débute dans un peu moins d'une heure. Amiras Willem s'est rendu sur le parvis de l'église hier soir pour y prendre la température. Reportage.
Posté à l'entrée de l'église, Ahmed veille sur sa deuxième maison. Ce chrétien palestinien monte la garde en pensant déjà à quoi ressemblera la grande messe pour le pape François.
Beaucoup, beaucoup de personnes vont venir à cette messe, des personnes de toutes les religions. Il y aura des Israéliens, mais aussi des Palestiniens.
Dans la cour du Saint-Sépulcre, Alexis Ganja s'élance le pas pressé. Cet Ukrainien de 31 ans se destine à une vie d'ecclésiastique. La mort du pape François, il en parle avec la ferveur de la foi.
Nous, les orthodoxes, on est convaincus que ceux qui meurent pendant Pâques vont directement au paradis. Le pape François a quitté ce monde d'une très belle façon. Il a béni les siens, il a prié, célébré Pâques, et le jour d'après, il a rejoint son Seigneur.
À quelques mètres de là, vissé à sa chaise en plastique et narguilé en main, c'est l'ici-bas qui préoccupe Marouen Atiya. Lui qui tient une boutique d'icônes et de chapelets espère avoir un peu plus de clients en ce jour de grande messe.
J'ai perdu 99% de mon activité. Le 1% restant ne suffit pas à couvrir mes frais. Cela fait plus d'un an que je sors de l'argent de ma poche. Bientôt, je vais devoir fermer cette boutique que j'ai héritée de mon père et de mon grand-père.
Jérusalem, pas à l'abri d'un miracle. Son patriarche latin qui célébrera la messe en l'honneur de François fait d'ores et déjà partie des candidats les plus en vue pour sa succession. Amira Spilem, Jérusalem, RFI.
Le pape François, qui lors de sa dernière bénédiction s'était inquiété de la situation humanitaire à Gaza.
Et alerté sur le désastre en cours dans l'enclave palestinienne, c'est également la mission que se sont donnés les membres du mouvement citoyen Hungry for Justice for Palestine, fin de justice pour la Palestine en français. Une vingtaine de soignants témoins qui a sillonné les routes de France et été reçus hier au Sénat à Paris. Objectif de leur mouvement de grève de la faim, indépendant, apolitique, laïque et transpartisan, témoigner de ce qu'ils ont vu à Gaza, des images qui continue de les hanter. Parmi eux, le docteur Khaled Bountrif, médecin urgentiste à Toulouse. Il décrit une situation humanitaire catastrophique et dénonce un génocide qui n'épargne ni les civils, ni les soignants, ni les journalistes. Alors pour lui, rejoindre ce mouvement était une évidence.
Quand on a été à Gaza, donc la première fois, on a été tous marqués. Moi, à mon retour, on me posait la question souvent, me dire qu'est-ce qui a changé en vous. Je me rends compte que la chose qui a changé en moi, c'est de plus en plus de dégoût de vivre alors qu'il y a une population qu'on est en train de trucider. J'ai un dégoût, j'ai une sensation de lâcheté, et cette sensation de lâcheté, elle est présente quand on quitte, quand on finit la mission et on s'apprête à rentrer. On a l'impression d'abandonner des gens à leur sort sinistre, et c'est très difficile. Moi, je rejoins ce mouvement de jeûnes et de grève pour dénoncer, pour revendiquer l'application du droit, le droit humanitaire, le droit local et le droit international. Les responsables, les élus et les personnalités du monde culturel, du monde scientifique, les syndicats sont censés agir pour appliquer le droit. On me dit oui, c'est peut-être un état d'âme parce que vous êtes parti là-bas, vous avez vu des choses, mais je pense que nous tous, autant que nous sommes, vous, moi, on part chaque jour là-bas, on voit tout.
Le docteur Khaled Bountrif au micro d'Alice Froussard. En Côte d'Ivoire, la justice ordonne la radiation de Tidjane Thiam des listes électorales. Les juges estiment que le candidat déclaré à la présidentielle au nom du PDCI avait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription. En cause, l'acquisition des années plus tôt de la nationalité française, nationalité à laquelle il a depuis officiellement renoncé. Cette décision ne souffre d'aucun recours et ferme pour le moment la porte de la présidentielle d'octobre à Tidjane Thiam.
RFI 9h09 à Antananarivo. Madagascar, qui attend l'arrivée d'Emmanuel Macron?
Le président français doit se poser dans les heures à venir sur la Grande Île, troisième étape de sa tournée dans l'océan Indien. Après un passage par les départements français de Mayotte et La Réunion, il doit notamment évoquer la présence française dans le détroit du Mozambique, les enjeux de cette visite avec Valérie Gasse.
Emmanuel Macron arrive à Madagascar avec une ambition claire, accroître l'influence française dans l'océan Indien pour continuer à développer sa stratégie indo-pacifique, et il a fait valoir ses arguments avant de quitter la Réunion.
Dans la zone indo-pacifique, on a plus de 8000 militaires qui sont présents. Donc c'est quelque chose qu'on a anticipé, c'est quelque chose qu'on développe. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité être présent en effet à la commission de l'océan Indien à Madagascar, où je défendrai la place de la France et de ses territoires dans les exercices conjoints, dans aussi la coopération régionale, qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, éducative, climatique ou économique.
La France se présente comme un État puissance de la zone et espère donc avoir les moyens de rendre Mayotte éligible au programme de la Commission de l'Océan Indien, malgré l'opposition des Comores.
Il y a en effet des désaccords que nous connaissons, mais on peut les aborder avec respect, mais surtout avec pragmatisme. Et il est normal que la France, contribuant à hauteur de 40% du financement de la COI, nous puissions avoir pour les territoires maorais de l'aide.
Les enjeux sont aussi économiques. Emmanuel Macron voit l'océan Indien comme un grand marché.
C'est le marché au moins de la COI, même plus largement en fait, qu'il faut aller conquérir. Afrique de l'Est, tout océan Indien, avec des relais qui vont jusqu'à l'Inde sur certaines filières, on change de monde.
Dans sa démarche, Emmanuel Macron espère obtenir le soutien de Madagascar. Valérie Gas, Tananarive, RFI.
26 morts en Inde après une attaque dans la région du Cachemire. Bilan confirmé ce matin par des sources hospitalières après la fusillade qui a eu lieu hier. Les victimes sont des touristes selon les autorités indiennes. New Delhi qui assure que 2 insurgés ont été tués ce matin après ce qu'elle décrit comme une tentative d'infiltration à une centaine de kilomètres des lieux de la fusillade d'hier. La Chine dénonce une nouvelle fois les droits de douane américains, des taxes qui nuisent au commerce international selon le président chinois Xi Jinping. Hier, le président américain avait assuré que ces droits de douane qui s'élèvent à 145% allait baisser substantiellement dans un avenir proche.
La Chine à l'assaut des salles de cinéma françaises ce mercredi.
Après avoir conquis le monde, Ne Jia débarque dans les cinémas. Ne Jia, c'est le héros d'un film d'animation chinois dont le deuxième épisode sort donc en France ce mercredi. Véritable phénomène mondial, ce film chinois est le plus rentable de tous les temps avec plus de 2 milliards de dollars de recettes, détrônant Vice Versa 2 et La Reine des Neiges 2. Il s'impose aussi comme le premier long métrage non hollywoodien à entrer dans le top 10 des plus gros succès, juste derrière Titanic, Sophie Torlotin.
Vêtu de rouge, les yeux cernés de noir, Ne Jia est un enfant démon maîtrisant le feu. Librement inspiré de L'Investiture des Dieux, un classique littéraire chinois du XVIe siècle, ce film le montre affrontant des dragons des mers orientales pour sauver son village. Utilisant, en les modernisant, des références à la mythologie chinoise, s'appuyant sur des effets visuels puissants et des personnages attachants, Ne Jia 2 a conquis les spectateurs chinois dès sa sortie fin janvier pour les vacances du Nouvel An. Ce film, qui n'a coûté que 80 millions de dollars, en a rapporté près de 2 milliards, dont la majorité en Chine même, un record absolu. C'est également la première production chinoise à intégrer le top 10 des plus gros succès du box-office mondial. Sorti avant le début de la guerre commerciale américano-chinoise, Ne Jia 2 est un motif de fierté nationale. La presse étatique chinoise ne s'y est pas trompée en louant ce film qui prouve que son industrie cinématographique est capable de rivaliser, voire de contrer l'hégémonie culturelle américaine.
Sophie Torlotin.
8h13 à Paris, c'était le journal de Pierre Boudias. Merci à vous. Tout de suite, l'Infosport. Les sports avec Victor Missistrano. On commence par du foot. Victor, tout d'abord, en France, la série d'invincibilité, c'est dur à dire, du PSG se poursuit.
Déjà assurés du titre, les Parisiens n'ont pas perdu cette saison en Ligue 1 et peuvent devenir la toute première équipe à terminer le championnat invaincu. 30e match sans défaite hier soir à Nantes, un partout. Ouverture du score du Portugais Vitinha, égalisation du Brésilien Douglas Augusto pour permettre aux Nantais d'engranger un point précieux dans la course au maintien.
Le PSG qui jouera dans une semaine sa demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera contre Arsenal.
Les Gunners opposés ce soir à Crystal Palace. Et s'ils s'inclinent, ce sera Liverpool qui sera assuré de remporter la Première Ligue et de succéder donc à Manchester City. Des Citizens qui se battent pour une qualification en Coupe d'Europe. Succès précieux hier contre un concurrent direct, Aston Villa, 2-1 grâce à un but de Mateus Nunes dans les tout derniers instants. City remonte à la 3e place. Et puis en Espagne, le FC Barcelone reprend provisoirement ses distances avec le Real Madrid. 7 points d'avance désormais grâce à une victoire contre Mallorca 1-0, un but de Dani Olmo. Les Madrilènes, Andréane, quant à eux, jouent ce soir à Rétafé à 19h30, temps universel.
Et justement, comme chaque année, la capitale espagnole accueille un tournoi de tennis, événement prestigieux qui débute aujourd'hui.
Un Masters 1000, autrement dit le deuxième niveau après les tournois du Grand Chelem. Le gratin du tennis mondial est donc réuni, mais Madrid a quelque peu perdu de sa superbe. Entre critiques des joueurs et spectateurs pas toujours au rendez-vous, le tournoi qui rêvait de concurrencer Roland-Garros peine peine à faire l'unanimité. Reportage de notre correspondant Pierre Chaperon.
Tribune clairsemée, ciel maussade, comme chaque année, à cette période, le tournoi de Madrid a du mal à séduire. Mais pour les Espagnols, c'est le rendez-vous tennis de l'année. Une valeur sentimentale pour Guillermo Raquet en bandoulière.
C'est particulier. Il y a un soutien particulier à nos joueurs. Sentimentalement, c'est important. Et puis c'est une préparation au meilleur tournoi de la saison, Roland-Garros.
Organisé à une trentaine de minutes en métro du centre-ville, un site à ciel ouvert, exposé aux quatre vents, situé à 600 mètres d'altitude, résultat des joueurs qui critiquent le manque d'espace pour s'entraîner et des spectateurs qui dénoncent les prix excessifs de la restauration, par exemple. Des critiques logiques pour Diego Olivencia, journaliste pour le site El Imparcial.
Comparé à Roland-Garros où l'organisation est incroyable, ici on programme des matchs parfois très tard. On pourrait faire mieux, surtout quand on sait que c'est un gros tournoi, l'un des plus importants sur terre battue.
Et des critiques balayées d'un revers demain par la direction du tournoi, un tournoi qui permet malgré tout aux Madrilènes d'applaudir les héros du tennis national. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et puis je termine par du basket, il n'y a pas qu'en NBA que les choses sérieuses commencent. Les quarts de finale de l'Euroleague ont débuté hier dans la plus grande compétition européenne. Il ne faut pas remporter 4 mais 3 matchs pour se qualifier. Novice à ce niveau, le Paris Basketball a perdu le premier hier soir, Andréane à Fenerbahçe 83-78.
Merci Victor Mistrano. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Alors que le ministre américain des Finances prévoyait hier une désescalade à venir avec Pékin, on se penche dans aujourd'hui l'économie sur les négociations entre les États-Unis et les autres pays visés par les droits de douane américains. On s'intéresse tout particulièrement à l'Inde ce matin, l'Inde et son industrie pharmaceutique. Il en a été question hier entre le vice-président américain J.D. Vance et le premier ministre indien Narendra Modi. Ils se sont rencontrés à New Delhi. En effet, Stéphane, il faut le rappeler, la guerre commerciale lancée par le locataire de la Maison Blanche aura un impact direct sur les médicaments consommés par les Américains.
Oui, les États-Unis sont extrêmement dépendants des médicaments produits en Inde. Près d'un générique sur deux consommés y est fabriqué. On parle ici de traitements contre l'hypertension, les troubles de la santé mentale ou encore le diabète. Car il faut le rappeler, Andréane, l'Inde est le premier fournisseur de médicaments au monde. C'est aussi le premier fournisseur des États-Unis. L'an passé, ce sont près de 13 milliards de dollars de médicaments indiens qui ont été exportés sur le sol américain.
Pourtant, avant la pause de Donald Trump et donc les négociations en cours, l'Inde était visée par les droits de douane de Donald Trump.
Oui, il était question d'une surtaxe de 26%. Ça veut donc dire, on le précise, que tout produit fabriqué en Inde arrivant aux États-Unis pourrait être taxé à cette hauteur, y compris donc les médicaments. Sauf que là, il ne s'agit pas de marchandises lambda, il est question de santé publique. La conséquence, c'est évidemment un risque sur la santé des Américains en raison d'une hausse des prix, car vous vous en doutez, les coûts de production en Inde sont moins élevés qu'aux États-Unis, 3 à 4 fois moins. Cela permet à Washington d'économiser des milliards de dollars en frais de santé. Rien qu'en 2022, d'après le cabinet de conseil IQVIA, les économies réalisées au générique, grâce aux génériques indiens, se sont élevées à 219 milliards de dollars.
Car l'objectif de Donald Trump, c'est de relocaliser la production aux États-Unis.
Seulement voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les Américains ne disposent pas forcément des principes actifs sur leur sol pour fabriquer les médicaments en tant que tels. D'autant que leur deuxième fournisseur, c'est la Chine, pays le plus touché par les mesures du président américain. Mais certaines entreprises font un pas vers Donald Trump. Plusieurs géants européens, notamment présents en Inde, ont annoncé des investissements massifs aux États-Unis.
Avec l'ambition d'anticiper les hausses de prix que vous évoquiez à l'instant.
C'est précisément cela. Le laboratoire Roche prévoit 50 milliards de dollars pour renforcer ses capacités de production et de diagnostic sur le sol américain. Novartis, de son côté, parle de 23 milliards sur 5 ans. Donc oui, Andréane, pour le moment, si on ne s'en tient qu'aux annonces, le président américain obtient des résultats.
Mais Washington et New Delhi n'ont pas d'autre choix que de discuter.
Pour toutes ces raisons, le bras de fer est diplomatique, mais aussi économique. On a pu le voir ces dernières heures avec la visite de J.D. Vance à New Delhi. Sauf que la particularité, c'est qu'à court terme, pour les Américains, il est impossible de remplacer l'approvisionnement indien, que ces produits sont évidemment vitaux, car l'Inde, vous l'avez compris, est un véritable pilier de la santé aux États-Unis. C'est en fait l'un des meilleurs exemples de produits à demande inélastique, à savoir des produits dont on ne peut pas se passer.
La question maintenant, Andréane, c'est de savoir jusqu'à quel prix.
Stéphane Geneste pour notre rendez-vous aujourd'hui. L'économie, 8h19 à Paris. Tout de suite, on continue de parler de la politique de Donald Trump et de ses conséquences avec notre invité. En studio face à Gaëtan Plenet, la professeure Bana Jabri, directrice de l'Institut Imagine guérir les maladies génétiques. C'est dans le campus de l'hôpital Necker à Paris. Bana Jabri a co-signé il y a quelques semaines une tribune dans le journal Le Monde intitulée « Aux États-Unis, la science est attaquée, entravée et même interdite ».
Bonjour Bana Jabri.
Bonjour.
Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier, des milliers de chercheurs ont été licenciés des agences fédérales, des subventions ont été réduites, voire complètement arrêtées, des mots ont été interdit dans les projets de recherche, des données scientifiques ne sont plus accessibles au public, il y a aussi la collaboration scientifique internationale qui est devenue de plus en plus compliquée. Pourquoi tant de haine, Bana Jabri ? Pourquoi le président Donald Trump vous déteste-t-il autant ? Pas vous personnellement,
non,
évidemment,
mais
les scientifiques.
Actuellement, ce que nous observons là est d'une très grande tristesse. Je pense que à l'origine, d'abord, c'est cette haine de la remise en question, du doute. Quand vous êtes scientifique, vous posez des questions, vous avez des doutes, vous cherchez, vous avez un esprit libre, vous êtes pour la liberté d'expression. Et je crois que Donald Trump est tout dans le contrôle.
Ce n'est pas son ADN, tout ce que vous citez.
Non. C'est tout dans le contrôle. Et puis, je pense aussi que ce qui s'est passé avec... l'épidémie Covid a été une des grandes causes de l'absence de sa réélection. Et donc, il pense que ce qui s'est passé à cette occasion-là, et ce que le NIH a fait avec M. Fauci, quelque part, l'a amené à ne pas être réélu.
Donc ça peut être une forme de vengeance.
Oui, aussi. Mm-hmm. Mais je pense que plus que ça, c'est cette haine de la liberté d'expression. Je dois aussi dire que les universités américaines ont vraiment prôné une forme de remise en question de la société. Ils sont allés vers la diversité. Il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement woke. Je pense qu'on peut aussi se poser des questions. Est-ce que certaines universités n'ont pas permis à des gens de positions variées de s'exprimer comme ils auraient dû ? Mais tout ça a en fait conduit à ce désir du mouvement conservateur de vraiment contrôler le curriculum et ce qui est enseigné dans ces universités américaines.
Alors, vous connaissez bien les États-Unis, vous y avez travaillé, vous avez reçu là-bas notamment une chaire d'immunologie et de médecine à l'université de Chicago. Oui. Est-ce qu'il y avait des prémices, des signes avant-coureurs de ces coups de rabot qui allaient intervenir dans le domaine scientifique, selon vous, ou alors c'est vraiment venu très vite, en quelques semaines seulement ?
Je pense que c'est quand même venu très vite. Cette attaque aussi forte était... pas attendu. Les gens savaient qu'il y aurait un mouvement de vengeance contre le NIH et en particulier contre NIAID que M. Fauci dirigeait. Mais je ne pense pas que les gens s'attendaient à ce qui s'est passé dans ces dernières semaines. En tout cas, pas à ce point-là.
Pas à ce point-là. J'ai listé quelques-unes des entraves politiques imposées au domaine de la science depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais quelles en sont les conséquences concrètes et surtout en quoi ça menace la recherche et plus largement la vie des gens ?
Enfin, d'abord, il faut quand même reconnaître que les États-Unis ont investi énormément dans la science. C'est plus de 3,4% de leur PIB. C'est un pays moteur et dans le développement technologique. Les prix Nobel en médecine et physiologie sont à plus de 90% américains. Ça montre à quel point les États-Unis sont importants dans le domaine de la science. Ils ont contribué au niveau international avec l'aide contre, par exemple, HIV ou en Afrique. Beaucoup de mesures de prise en charge d'essais cliniques et donc le retrait des États-Unis de la science est certainement marquant pour tout le monde. La science est universelle, c'est pas le fait d'un pays et donc d'avoir un pays comme les États-Unis qui sont en retrait vis-à-vis de ça va avoir un impact international. Mais je crois que plus que ça, c'est une forme d'atteinte à la liberté de penser et montrer qu'un pays comme les États-Unis va attaquer en fait cette liberté de penser, je pense va aussi avoir un impact important psychologique et dans la façon dont nous pensons à la démocratie dans le monde entier.
Et vous recevez à l'Institut Imagine des coups de téléphone de ces scientifiques américains qui ont peur de ne pas pouvoir continuer à faire leur travail librement ?
Oui, donc nous avons effectivement, si vous regardez, on a fait des appels pour des recrutements et on a eu plus de 30% d'augmentation d'applications américaines. Je suis retournée aux États-Unis deux fois depuis janvier et il est certain que les gens se sentent attaqués, il y a une dépression, mais aussi, je dirais, surtout au niveau des jeunes, une très grande crainte. Vous savez que une des raisons pour lesquelles je suis allée aux États-Unis, c'est parce qu'il y a cette confiance dans la jeunesse, il y a cette capacité à prendre des risques, à accepter le risque, ce qui est beaucoup plus, je dirais, plus difficilement observable en France. Et là, ces jeunes qui vont commencer leur laboratoire indépendant, ces jeunes-là trouvent des portes fermées maintenant. Mmh. Et en science, vous pouvez pas attendre un an, deux ans, trois ans. Donc ça va être une génération perdue. Et je pense que nous avons tous aussi une responsabilité vis-à-vis de ces talents et de cette jeunesse.
Il y a cette volonté d'exil. On vous en parle, vous, quand on vous appelle à l'Institut Imagine, cette volonté de venir ailleurs pour pouvoir faire ce travail.
Oui. Je pense que c'est d'une part cette volonté de vouloir continuer bien sûr la science au niveau qu'ils connaissent, mais surtout aussi de bénéficier d'une atmosphère de liberté. La science, c'est antinomique l'interdiction de réfléchir à certaines questions ou de faire une recherche sur certaines questions. Et donc au-delà, je dirais, des moyens de recherche, il y a aussi ce désir de trouver une atmosphère qui vous permet d'exercer librement.
Alors, pour répondre à cette demande, Emmanuel Macron, le président français, a publié le 18 avril, en français et en anglais, tout un symbole, un communiqué pour inviter les chercheurs du monde entier à choisir la France et l'Europe aussi, pour sans critiquer, nommément dans ce communiqué, la politique de Donald Trump. Le 5 mai, Emmanuel Macron veut organiser une réunion de la grande communauté de la recherche et accueillir à terme des centaines de nouveaux chercheurs étrangers. Ces scientifiques, Bana Jabri, il faut les accueillir. Vous approuvez cette démarche ?
Absolument. Mais je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans un cadre plus général. La science, le PIB en France est de 2,2%, elle est de 3% en Allemagne, 3,4% aux États-Unis. Je pense que la France doit faire un effort dans l'investissement dans la science. C'est aussi d'importance, je dirais, dans la défense nationale. Et donc, c'est une opportunité pour France.
C'est très triste pour les chercheurs américains, mais pour la France, ça peut être une porte ouverte.
Ça peut créer une forme de dynamique, mais je pense aussi une façon différente de penser à la science, avec peut-être plus de confiance dans la jeunesse, donner plus de liberté et d'indépendance aux jeunes qui commencent leur laboratoire, mais aussi une responsabilité d'aller dans les domaines qui sont interdits. Donc la recherche sur le climat, la recherche sur la reproduction, la recherche scientifique sur la santé de la femme. Enfin, il y a différents domaines et surtout aussi tout ce qui est infectieux, vaccinologie. Donc je pense qu'il y a des choix stratégiques aussi à faire en France. Je pense qu'il faut accueillir ces scientifiques américains, mais il faut le faire aussi avec une réflexion générale sur dans quoi doit investir la France aussi et l'Europe.
Mais les accueillir, ces chercheurs étrangers, est-ce que ça veut dire moins de moyens pour les chercheurs français ? Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter de ça ?
Là encore, c'est pour ça, je pense que ça doit s'inscrire dans un effort général. Je pense que ça peut être l'occasion d'une réflexion plus globale, d'un investissement plus général. Je pars toujours du principe que lorsque vous investissez dans quelque chose, vous tirez l'ensemble vers le haut. Et donc, quelque part, si cet accueil s'inscrit dans une réflexion plus globale sur comment donner plus de moyens, plus de flexibilité à la science française, mais aussi avoir le secteur privé investir davantage en science en France, ça sera positif pour tout le monde.
Une bonne chose. Merci Bana Jabri, directrice de l'Institut Imagine Guérir les maladies génétiques dans le campus de l'hôpital Necker à Paris.
La professeure Bana Jabri, elle répondait à Gaëtan Plenet. Merci d'écouter RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Aujourd'hui, la présence de substances dans les eaux usées liées à la consommation de médicaments fait l'objet de surveillance. Comment évaluer les risques sur l'environnement ? Demain, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde selon l'OMS. Le docteur Thembo Batili, oncologue, répond à vos questions.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
Le droit à la liberté d'orientation sexuelle est de plus en plus menacé, y compris en Europe. Après la Hongrie, c'est en Turquie que le gouvernement en prépare une nouvelle loi. Elle pourrait aboutir à l'interdiction des mouvements LGBT et à la criminalisation de l'homosexualité dans l'espace public.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU, sur RFI. Le prix théâtre RFI.
C'est le moment pour participer à sa 12e édition. Vous êtes auteur ou autrice, vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient? Envoyez vos textes avant le samedi 3 mai minuit à l'adresse suivante prix.théâtre@rfi.fr.
En partenariat avec la SACD, l'Institut français, les francophonies des écritures à la scène, Théâtre ouvert, le CDN de Normandie-Rouen et la Villa d'Art à Saint-Louis du Sénégal.